Notre invité, Jean-Michel Jarre, Machine, qui fête les 40 ans de son concept album Equinox. C'est Equinox Infinity avec deux pochettes, une musique pour un double scénario que vous allez nous raconter. Jean-Michel Jarre, bonsoir.
Bonsoir. On va essayer cette semaine de ne pas faire baisser le taux d'audience, donc.
On va l'augmenter encore plus. Equinox Infinity, ça c'est pour vous, Jean-Michel Jarre. 40 ans après Equinox, combien d'albums vendus, Jean-Michel Jarre?
Beaucoup plus qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'on en vendrait aujourd'hui.
Ah bah oui, ça c'est certain.
Voilà.
Plusieurs millions?
Oui.
Et Oxygène?
Ouais. La même chose, ouais. Oui, je pense.
Non, mais aujourd'hui, ouais. En effet, beaucoup moins.
Oui,
c'est une autre façon d'écouter.
C'est une autre façon d'écouter, mais c'est la raison pour laquelle c'est intéressant de sortir aussi en vinyle. Ce nouvel album est sorti en vinyle et on disait juste avant l'émission avec Michael là que le vinyle a cette qualité de créer un contact organique et tactile avec l'auditeur. Je disais qu'aujourd'hui il y a un grand retour des vinyles, mais que 60% des vinyles aujourd'hui achetés ne sont pas écoutés parce que les gens téléchargent et ils ont le vinyle en main
comme un fétiche ou comme un
lien finalement affectif tangible et organique avec l'artiste ou la musique qu'ils aiment. Et c'est la raison pour laquelle cet album d'ailleurs sort avec deux pochettes différentes.
Ah, alors on va y revenir justement. Voilà. Pourquoi deux pochettes différentes? Peut-être qu'on va revenir sur la première pochette signée
Michel Granger, qui était l'auteur aussi de la première pochette de D'Oxygène. Et j'ai toujours été intrigué par cette pochette qui est devenue iconique de l'ère du vinyle, qui sont ces petites créatures qui vous regardent et qui vous scrutent et qui vous observent. Et le point de départ de cette Equinox Infinity, qui est pas exactement une suite, c'était l'idée pour une fois de partir du visuel d'une pochette et de se dire au fond ces créatures, que sont-elles devenues et qu'est-ce qu'elles deviendront dans l'avenir. Et pour moi, elles illustrent un peu à la fois l'évolution de la technologie qui nous observe, ces machines qui apprennent de nous depuis que j'ai commencé, au fond, peut-être quitte à prendre le pouvoir à l'aube de l'intelligence artificielle, et puis aussi des lanceurs d'alerte par rapport à l'environnement, par rapport à ce que nous faisons de la planète. Et donc du coup, j'ai eu l'idée justement de faire cet album un peu comme une bande son avec deux futurs possibles, dont deux pochettes différentes, une qui symboliserait un futur apaisé, je dirais bleu et vert, et ouais. une autre pochette plus sombre et plus apocalyptique.
Vous allez au cinéma, Jean-Michel Jarre?
Oui, beaucoup. Oui, moi je regarde presque un film par jour, pas au cinéma toujours, mais chez moi, je suis un grand amateur de cinéma. Oui.
Vous avez un home studio, c'est ça que vous voulez nous dire?
Oui, enfin j'ai un écran, je sais pas si on va peut-être pas appeler ça. Bah si, j'ai un home studio qui est mon studio d'enregistrement.
D'enregistrement, voilà. C'est certain.
Mais dans lequel il y a effectivement un écran et donc souvent à dîner, je me fais un film pratiquement tous les jours. Oui.
Quel genre de film en ce moment, par exemple, vous regardez quoi?
Hier, par exemple, j'ai revu Spotlight. Qui est un film formidable, qui a toute son actualité avec ce qui se passe avec les problèmes de pédophilie dans l'église. Et c'est un film qui est intéressant parce qu'il a justement cet aspect à la fois presque documentaire et en même temps avec un côté romanesque du quotidien et qui est joué en plus par des acteurs superbes. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir.
Vous n'aimez pas aller en salle?
Si, j'aime beaucoup, mais sauf que quand je suis en studio, je peux pas sortir pour aller en salle, surtout qu'en plus, je regarde souvent des films à des heures qui sont pas malheureusement les heures qui correspondent aux séances. Mais sinon, évidemment, rien ne remplace la salle de cinéma.
On vous a demandé à chacun des sons pour faire connaissance. Alors vous avez choisi un son. Vous êtes bien amusé avec les sons, Jean-Michel Jarre. Je reconnais l'homme, j'allais dire presque de radio. Bah oui, parce que c'est presque votre maison ici, la maison de la radio. L'homme de son que vous êtes. Un son donc très personnel qu'on a eu du mal à trouver. Pas tant que ça. Un café près de la gare, là où vous habitiez, c'est ce que vous nous aviez demandé.
Alors non, ah oui, d'accord.
Mais je pensais qu'il y avait des puces.
C'est une adaptation.
Oui, voilà.
En fait, oui.
On n'a pas les moyens d'aller chercher. Bah,
c'est pas une question de moyens, c'est une question d'opportunité. En fait, non.
Dites-moi.
Oui, c'était en fait, j'avais dit, je me souviens ce que j'avais dit à vos collaborateurs, c'était le son des putes et des soldats.
Pour l'instant, rien.
Devant le café.
Mais ça, c'est bien Juliette Médevielle. Hein.
Voilà.
Vous la connaissez pas, mais elle vous a trouvé un son sans putes et sans soldats.
Voilà, c'est ça. Mais enfin bon. bon, c'était un bel effort déjà parce qu'il y avait déjà une ambiance. Et en fait, c'était mes grands-parents à Lyon habitaient en face de la gare de Perrache et en fait, j'avais mon grand-père qui était un ingénieur, un inventeur m'avait
donné un sacré inventeur quand même.
On peut dire qu'il a inventé une des premières consoles de mixage et puis le TEPAZ, le tourne-disque avec batterie incorporée qui était l'ancêtre de l'iPod où on allait écouter en pique-nique les 45 tours d'Edith Piaf.
Donc
ils habitaient devant la gare de Perrache et devant la gare de Perrache, il y avait le cours de Verdun qui accueillait des cirques, mais surtout il y avait les deux cafés de la gare, donc qui se trouvaient en dessous de l'appartement de mes grands-parents et qui entouraient une crèmerie. Et donc j'étais fasciné l'été, on dormait la fenêtre ouverte. Il y avait ce son qui était le mélange, ce qu'on appelle à Lyon des bertes de lait, c'est-à-dire les grandes bouteilles métalliques qu'on pose sur les trottoirs. Et puis c'était la guerre d'Algérie et il y avait donc les putes et les soldats qui étaient là et qui s'engueulaient, qui s'engueulaient pas nécessairement. D'ailleurs, ça se termine en général plutôt pas mal, j'ai l'impression. Et donc il y avait cette espèce de son qui pour moi est vraiment le son de la ville. On parlait de Paris à l'instant. Lyon, c'est la même chose. Il y a une ambiance urbaine sur le plan sonore, avec en plus les sons du cirque qui étaient de l'autre côté de la rue, qui faisaient qu'il y avait un foisonnement absolument magique. Ouais. Il y avait tout un univers. Et donc c'était celui-là, mais j'avoue que c'était un sacré défi pour arriver à le retrouver, ce son.
Alors, autre défi, un son de film, très particulier.
Ça, en fait, c'est le son de 2001, Odyssée de l'espace, qui est un film qui m'a tellement marqué que, pour le coup, quand on parlait de salle de cinéma, c'est un film que je suis allé le voir tous les jours, pendant une semaine, tous les soirs. C'est un film qui, c'est certainement une de mes plus grosses sources, plus grandes sources d'inspiration.
Parce que là, on entendait, il y avait les trois petits bruits, puis après, le silence.
Voilà. Alors, à la fois, c'est les premiers sons de ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle avec le fameux HAL 9000, cet ordinateur intelligent qui se rebelle contre les humains. Et en même temps, c'est aussi le son du silence de 2001, Odyssée de l'espace. Ce qu'on sait peu, c'est que Stanley Kubrick a envoyé plusieurs ingénieurs du son à travers le monde pour enregistrer 7 différentes sortes de silence pour arriver à trouver les différents silences de l'espace. Donc c'était le son du silence qui par définition n'existe pas, mais qu'il a en fait quand même créé, enregistré.
On a laissé que 3 secondes, sinon après il y a plein de choses qui se déclenchent, c'est la Troisième Guerre mondiale.
Ouais. Cette période-là, que ce soit Star Wars ou 2001, c'est une période où on avait une vision positive de l'espace, du futur. Une vision romanesque, en se disant après l'an 2000, les voitures voleront, les systèmes éducatifs, sociaux seront parfaits. Et on était un peu déçus après l'an 2000.
Ah non.
Après le bug, qui n'a pas eu lieu non plus, donc c'est une deuxième déception. Mais c'est vrai que, et on a vécu cette fin de siècle un peu comme un début de siècle, en se disant tout est possible. Et le début du 21e siècle s'est rétréci un petit peu quant à nos aspirations. Est-ce qu'on va suivre sur la planète, polluer, etc. Et on retrouve, à mon avis, cette idée du science-fiction, notamment dans le cinéma, avec récemment, depuis une dizaine d'années, avec des films comme Interstellar, Gravity, The First Man,
tout à fait quelque chose, etc., qui avait été abandonné véritablement.
Oui, cette vision,
dans les années,
cet appétit départ de l'espace, même avec des gens comme Jeff Bezos ou Elon Musk, avec l'idée d'aller à nouveau explorer l'espace et explorer le futur. C'est une sorte de retour vers le futur, si j'ose dire. Enfin, Ennio Morricone, c'est la rencontre aussi avec Sergio Leone, c'est magique.
Pourquoi vous n'avez pas signé de musique de film?
En fait, j'en ai refusé beaucoup, mais j'ai toujours eu tendance à penser que c'était le territoire du père, et donc c'était son job, et donc c'est idiot d'ailleurs.
C'est vraiment pour cette raison-là?
Oui, c'était la raison principale. Oui.
Qu'est-ce que vous avez refusé que vraiment vous n'auriez pas dû?
Oh, je peux pas le dire par égard à celui qui a fait les musiques et dans le même secteur que moi, on dira. Je vous laisse deviner.
Une chanson dont vous avez écrit les paroles, bien sûr, Jean-Michel Jarre, Les mots bleus, un film d'Alain Corneau en 2004.
C'est vrai, oui. C'était un très bon moment d'ailleurs pour que des chansons comme ça qu'on écrit finalement
deviennent le titre d'un film,
en tout cas des prétextes aussi. Et c'est vrai que Christophe, avec Les Paradis Perdus, Les Mots Bleus, etc., c'est aussi une période où on était en studio à triturer les sons et à concevoir des albums concept. Et j'ai toujours aimé beaucoup travailler avec Christophe. J'ai retravaillé d'ailleurs récemment avec lui pour les chansons, et donc, dont une qui a donné le nom de son dernier album, Les Vestiges du Chaos.
En parlant de concept album, on part dans le vôtre tout de suite. Moi, je connaissais Boys Don't Cry de The Cure, mais vous, vous signez la version 2.0, Jean-Michel Jarre, avec Robots Don't Cry. Un mot sur le titre de ce mouvement, Robots Don't Cry.
En fait, oui, parce que c'est une des sources d'inspiration de cet album, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'évolution de la technologie qui existe depuis que j'ai commencé, au fond, moi, à faire de la musique. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous regardent leur smartphone, leur tablette, souvent plus que leur propre partenaire ou leur propre famille, mais en oubliant aussi que la technologie nous regarde, nous étudie, et étudie notre comportement pour éventuellement nous vendre des produits dont on n'a pas forcément besoin.
Les fameux algorithmes.
Voilà, et en même temps aussi de nous observe aussi, et quitte à rentrer dans notre vie intime ou notre vie privée. Et en fait, cette intelligence artificielle va finalement évoluer. Il faut savoir que il faut l'admettre que d'ici 10 ou 15 ans, je pense que des algorithmes, l'intelligence artificielle sera capable de créer de la musique originale, des films originaux, des histoires originales.
Ça commence déjà. Il y a déjà des peintures qui sont faites par l'intelligence artificielle, des romans, de la poésie aussi.
Il y a toujours
vous travaillez avec?
Alors, j'ai voulu collaborer avec l'intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est un peu décevant, même très décevant. C'est-à-dire qu'on peut ou copier laborieusement une chanson des Beatles, ou alors on vous donne une mélodie à un algorithme qui vous ressort une version un peu canon de Pachelbel ou sous Jean-Sébastien Bach de ce que vous avez fait. Donc on n'y est pas encore, mais je pense que dans quelques mois, ça pourrait être intéressant. Et je pense pas qu'il faille nécessairement en avoir peur.
Ah non,
je crois
c'est que ça. Ça je crois qu'on va l'utiliser.
Voilà, c'est dans l'ADN des humains de penser d'avoir toujours une vision sombre du futur. Et de se dire hier c'était mieux, demain ça sera pire. Non, je pense que ça va permettre forcément des choses auxquelles aujourd'hui on ne pense pas. Et c'est vrai que ce que j'ai appelé ce morceau Robots Don't Cry, j'aurais dû l'appeler Robots Don't Cry So Far, c'est-à-dire les robots ne pleurent pas jusqu'à maintenant, parce qu'on peut imaginer qu'un jour les robots seraient, ou les algorithmes, les intelligences artificielles seraient capables de nostalgie ou d'émotion.
Alors, une séquence nostalgie, l'album Equinox est sorti en 78. Qui étiez-vous en 78, Jean-Michel Jarre? 76, Oxygène. 2 ans plus tard, Equinox, un carton aussi, planétaire. Qui étiez-vous à cette époque-là?
Je pense que j'étais pas très différent de ce que je suis aujourd'hui, avec l'idée que chacun de mes albums était foncièrement différent. Et en regardant en arrière, je me rends compte que finalement, ce qu'on fait comme artiste, c'est finalement décliner une idée qu'on a d'un album idéal ou d'un livre idéal ou d'un film idéal, et qu'on passe son temps à essayer de s'en rapprocher, mais que finalement on décline le même univers qui est le sien quand on en a un.
Alors, qui êtes-vous aujourd'hui en 2018? Je vous pose cette question parce que je crois que depuis quelques années, c'est l'album le plus mélodique que vous ayez signé. C'est quelque chose du travail de la mélodie qui n'était pas nécessairement présent dans les précédents.
Oui, c'est vrai que cet album est assez mélodique, et je pense que c'est cette idée de vouloir confronter à la fois l'expérimental et la pop ou la mélodie, donc de trouver ce pont. Et puis en même temps, c'est ce que je disais à l'instant, ce mélange entre... Je pense qu'on sera capable de survivre à ce siècle seulement si on évolue en bonne intelligence à la fois avec la nature, l'environnement et les nouvelles technologies. Et que ce sont deux facteurs beaucoup plus interdépendants qu'on le pense. Et je pense que de mêler justement dans un album comme Equinox Infinity, justement l'aspect mélodique et les sons presque naturels avec des sons qui peuvent être aussi issu du monde analogique ou du monde numérique, me semblait un mélange intéressant. Et je dois dire, pour la première fois, je suis à peu près satisfait de ce que j'ai fait. C'est pas du tout prétentieux ce que je veux dire, parce que j'ai toujours là, en fait, très brièvement, la maison de disques m'a joué un sale tour, parce qu'ils m'ont donné une date limite qui était début juillet, et en fait ils se sont trompés, donc j'avais fini, j'étais pas content comme d'habitude, et puis ils m'ont dit non, finalement tu peux rendre l'album fin août, et donc j'ai eu ces 6 semaines en plus, qui était un rêve total, et donc j'ai plus d'excuses, donc j'ai pu changer tout ce que je voulais changer à la fin du... Ben, je pense que Michael doit savoir ça.
Oui,
dans
non,
un film
dans un tournage pareil dans,
On termine toujours. On n'a pas dormi depuis 10 jours, et puis finalement on se dit, ah, on aurait pu changer cette chose. Cette fois-ci, j'ai pu le faire.
Jean-Michel Jarre, c'est aussi bien sûr dans votre parcours les méga concerts. Hein, ça commence à la fin des années 70, la Concorde en 79, 1 million de personnes, 1,5 million à Houston en 86. Je vais pas tous les refaire. Je vous parle de ça parce que vous avez donné récemment un énorme concert aussi, un Green Concert en Arabie Saoudite. C'est quoi un Green Concert?
Green Concert, c'était au moment de la fête nationale, et le green, c'est la couleur de l'islam, et c'est aussi la couleur de, c'est évidemment la couleur de l'environnement. Et il y a cette volonté dans toute cette partie du monde. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite est un pays qu'on connaît peu et qu'on connaît que de manière négative, et notamment avec ce qui se passe en ce moment.
Oui, il se passe.
Et que, mais en fait, il y a la volonté justement de la vision de après 2030. Et en fait, j'ai pour la première fois, alimenté les instruments sur scène avec des panneaux solaires.
Et en fait, donc c'est ça un green concept.
Voilà, c'était ça l'idée. Mais au-delà de ça, je pense que c'est très important. Moi, je suis contre toute forme de boycott. Je pense que
Qu'on vous a reproché d'aller en Arabie Saoudite.
Personne ne l'a reproché, mais je le dis. Je pense que justement, même avec ce qui se passe aujourd'hui, demain, si j'avais à le faire, je le referais de la même manière, parce que je pense que il ne faut pas confondre une idéologie et un peuple. Il ne faut pas confondre le fait que nous, les artistes, on s'adresse aux populations qui souvent justement sont victimes de conditions qui sont pas les nôtres sur le plan du quotidien, et que c'est leur appliquer une double peine si en plus ils sont coupés de la culture, de la musique, du cinéma, et qu'évidemment il faut aller en Iran, il faut aller en Corée du Nord, il faut aller dans tous ces pays justement pour, sinon on collabore d'une manière un peu inconsciente avec la radicalisation, l'aliénation.
Dans le passé, vous avez voyagé absolument partout, fait des concerts dans tous les pays. Vous êtes allé aussi en Chine. Est-ce qu'on vous l'a reproché? Est-ce qu'il y a eu des articles ou des personnes qui vous ont reproché d'être allé en Chine à l'époque? Ou
à l'époque, oui, ce qui était drôle. C'était surtout en France d'ailleurs. Et ce qui était drôle, c'est que il y a certains, pas beaucoup, mais il y a certaines personnes qui ont réagi en disant comment on peut aller. C'est surtout comment aller en Chine dans un état alors que l'État s'ouvrait après la chute de la bande des quatre et Deng Xiaoping ouvrait le pays. Surtout qu'en plus les gens qui ont pu réagir de cette manière-là étaient en fait eux-mêmes d'anciens maoïstes.
Ah bah, c'est toujours les plus radicaux, bien sûr.
La même chose. C'est-à-dire que
donc quand même, on vous a reproché d'être allé en Chine.
Oh non, mais c'est un infime pourcentage. Et puis je pense que c'est justement ça qu'il faut faire. Et puis de toute façon, dans la vie d'un artiste, il faut être clivant. Et surtout en France, c'est très dangereux de ne plus l'être. On l'est en général après sa mort. On n'a qu'à voir Johnny ou Aznavour qui ont été clivants toute leur vie.
C'est la réconciliation.
Et puis ensuite, après, on fait l'unanimité. Donc, je nous souhaite d'ailleurs, Michael et moi, de faire l'unanimité le plus tard possible.
Equinox Infinity, c'est paru chez Columbia Sony Music, version CD, version album avec double pochette. Et puis un concert, enfin non, il n'y a pas un concert, il y a un festival aussi, j'ai vu que vous étiez à l'initiative. Ina Sound, ce sera le 8 et 9 décembre au Palais Brongniart à Paris. Vous restez avec nous parce que tout de suite, c'est le questionnaire 100% France Inter pour vous, Jean-Michel Jarre. Et après, on parlera de cinéma avec Michael Hertz.
Et maintenant, le questionnaire.
Je tiens au passage à préciser que vous n'avez pas souhaité avoir la liste des questions par avance.
Rendez-vous.
Ça, c'est normal. Mais tellement rare aujourd'hui.
Et oui, tout de suite, rien que pour vous, Jean-Michel Jarre, le questionnaire 100% France Inter, c'est-à-dire c'est des questions des stars de la chaîne qui ont déjà servi, comme nous aussi on est très green, on les recycle. Je vous propose trois catégories. Oxygène, les mots bleus, où sont les femmes? Où sont les femmes? Parce que c'est vous qui avez signé aussi cette chanson.
Voilà,
c'est parti, en un, Augustin Trapenard.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi un métier dans lequel on s'expose constamment au risque de l'échec?
Je me protège quand même beaucoup en m'entourant finalement dans ma vie plus de machines que d'êtres humains. C'est ça que j'aurais fait dans ma vie. Mais en fait, j'ai réussi à les apprivoiser, je dirais, un peu comme les gens qui vivent au milieu des éléphants ou des dauphins. Donc j'ai inventé et créé un langage avec eux. Et donc finalement, c'est une très bonne manière de se protéger.
Vous êtes sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter?
Oui, mais pas de manière hystérique.
Très bien, on aura compris. La deuxième, Ali Rebehi.
Il existe des distorsions entre le porno et la réalité. Ça peut entraîner des frustrations quand on ne peut pas faire avec sa moitié ce qu'on a vu dans une vidéo pornographique.
Jean-Michel, bon,
ça, alors là, je laisse l'entière responsabilité de n'importe quel commentaire à l'auteur de la question. Je veux dire qu'on peut faire des tas de choses avec sa moitié, mais qui ne sont pas obligés de se retrouver sur Internet.
Et la troisième question, c'est Augustin Trapenard encore.
Qu'est-ce que c'est pour vous un moment de radio?
Un moment de radio, c'est un moment justement qui n'est pas un moment d'internet, c'est pas un moment de zapping, c'est un moment d'intimité, et c'est un moment qui justement peut toucher à l'universalité parce qu'elle n'est pas seulement liée à l'image, mais elle laisse l'auditeur libre de se raconter sa propre histoire ou son propre scénario.
Eh bien, en parlant de radio justement, voici ce que vous avez signé pour nous ici pour Radio France. Un son Radio France, un son France Info, signé Jean-Michel Jarre. C'est quoi le cahier des charges?
Le cahier des charges, en fait, faisait 120 pages. Parce qu'il
donc, c'était on ne le lit pas.
Donc, on ne le lit pas. J'ai ouvert la première page, je l'ai refermé. Et après, j'ai fait ce que je pensais devoir faire. Et en fait, j'ai constitué une sorte de boîte à outils de 20 minutes dans laquelle on pouvait ici puiser. Cette maison, c'est une maison que j'aime beaucoup, comme vous le savez.
Vous connaissez très bien.
Et c'est une maison, j'ai commencé dans cette maison avec Pierre Schaeffer, avec le groupe de recherche musicale. Et quand on m'a proposé de faire la musique, de concevoir la musique d'une chaîne info comme France Info, je me suis, ça m'a énormément touché parce que j'avais l'impression justement, je voulais vraiment remettre un peu de l'ADN de ce qu'a fait cette maison sur le plan sonore. On oublie trop souvent que le service public est un service, et les radios et les services publics, c'est l'innovation avant tout. On l'oublie, il y a cette espèce d'image un peu pétrifiée de statut du commandeur, alors qu'en fait, toutes les innovations sur le plan du son et sur le plan visuel viennent des services publics, et la musique électronique et électroacoustique doit beaucoup au service public. Stockhausen, Kraftwerk, Tangerine Dream avec les radios nationales allemandes, le workshop de la BBC, évidemment le service de la recherche avec Pierre Schaeffer et Pierre-Henri.
Et aujourd'hui, vous, sur France Info, Jean-Michel Jarre.
Exactement.
Qui nous offrait donc des moments de radio, parce que c'est ça aussi, les moments de radio.
Oui, puis que c'est quand même bien d'imaginer le son de la météo, le son du sport, de la politique, ouais, etc. Ça, hein. C'est formidable.
Alors, ce n'est pas un film sur les attentats, c'est un film sur la disparition. Un beau sujet, vous disiez, dans la bande-annonce.
Oui, je trouve que c'est Jean-Michel un très, très beau sujet parce que on parle évidemment beaucoup du traumatisme des survivants, mais c'est vrai que les liens familiaux qui se trouvent bouleversés, ça, on n'en parle pas, et je trouve que c'est vraiment un très très beau sujet de film.
Le travail du deuil, c'est quelque chose qui a pu avoir une influence, un impact sur votre propre création, Jean-Michel Jarre?
Oui, comme chacun de nous. Moi, j'ai traversé une période très compliquée il y a une douzaine d'années. Je rentrais en studio, je pouvais plus écrire quoi que ce soit, parce que j'ai perdu mes deux parents la même année. Mon éditeur Francis Dreyfus, qui était mon complice depuis le départ. Un divorce aussi assez pénible, enfin un moment vraiment pénible. Et du coup, j'étais totalement bloqué. Et j'ai ouvert j'ai commencé un projet qui s'appelle Electronica avec beaucoup de collaborations de gens qui ont été des sources d'inspiration pour moi, et ça a été comme une thérapie, un voyage initiatique. Et bien sûr que les deuils, alors plus ou moins tragiques, comme le disait Michael à l'instant, je veux dire que je pense que pour faire un film comme ça, je pense qu'on n'est pas nécessairement obligé d'aller interviewer les gens. C'est son expérience soi-même, et finalement, comme vous le disiez, l'aspect métaphorique des choses est quelque chose qui peut nous toucher. C'est un sujet complètement universel, et c'est vrai que les deuils, évidemment, c'est presque un cliché de le dire, mais ça ne l'est pas quand on le vit vraiment dans sa chair, que les deuils changent votre vie. Et je pense quand on perd ses parents, je pense qu'on a une notion, un rapport avec le temps qui change. C'est-à-dire qu'avant, on a un rapport avec le temps en fonction du temps, je dirais, du temps qui passe. Et après que ses parents ne soient plus là, on a un rapport avec le temps en fonction du temps qui reste. Et c'est pas du tout la même chose.
On vous a proposé de jouer, vous, au cinéma? Bon, les musiques de films, on a bien compris, ça c'était votre père, donc c'était pas pour vous.
Et on m'avait proposé, c'était...
Jean-Michel Jarre.
Le réalisateur italien, Rosi Parisi, ouais. Mais Rosi.
Francesco
Rosi, c'est ça. Ouais. Qui m'avait proposé de jouer le Christ dans un film. Bon, je l'ai pas senti.
Mais vous l'auriez senti, vous l'auriez fait.
Ah bah oui.
Ah oui.
Oui, bien sûr, mais bon, c'était un peu trop, quoi. Je sais pas,
Un premier rôle.
Voilà, exactement.
La tentation.
Bon, c'est quand même un truc où on souffle pas mal.
Ah, oui,
bon,
oui, c'est vrai.
C'est pas un truc marrant.
On est à poil pendant tout le film.
Voilà, j'étais pas prêt. Mentalement, j'étais pas prêt.